Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Par les temps qui courent. On reçoit ce soir la danseuse chorégraphe Nina Santès.
Un tango, danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeux avec Nina Santès.
Ramasser la peau de leur voix à l'ombre de leurs gestes.
La sorcière est dans toutes les femmes et dans tout. C'est le théâtre, la révolution, la magie, la terreur et la joie. C'est la conscience que les sorcières et les gitans furent les premiers combattants de la guérilla et de la résistance contre l'oppression. L'oppression des femmes à travers les siècles. Les sorcières ont toujours été des femmes qui osaient être excitantes, courageuses, agressives, intelligentes, non conformistes, curieuses, indépendantes, libérées sexuellement, révolutionnaires. C'est la traduction française du début du manifeste Witch, l'acronyme d'un groupe de femmes activistes américaines qui agissaient à la fin des années 60. Witch, comme sorcière bien sûr, mais aussi acronyme de plein d'autres choses en fonction des actions qu'elles menaient. Ce jeu avec les lettres, on le retrouve dans le titre de votre dernière pièce, Nina Santès, Hymen, hymne, qui se joue du 15 au 18 avril au Théâtre de la Bastille à Paris. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
C'est une pièce qui prendra place dans une manifestation un peu plus large au Théâtre de la Bastille, consacrée à la danse. J'en retrouve les dates exactes. C'est du 8 au 18 avril au Théâtre de la Bastille à Paris. Et puis vous êtes aussi l'artiste associé de l'Atelier de Paris et vous donnerez une nuit blanche. C'est quoi donner une nuit blanche ?
Alors c'est une nuit d'expérience, de pratique, de spectacle, de performance et de fête. La nuit du 8 juin prochain.
Pendant le festival June Events.
Voilà.
On rentre dans votre spectacle. I want to talk about how I feel. I'm not the sun, not chicken like boom boom bang bang. I'm not the sun, not chicken like boom boom bang bang. Go girl, go girl, go girl! Slow down, relax, 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 relax. I've been before. Get out of my Caucasian house! Get out! Get out of my pocket!
I want to talk about how I feel. I want to talk about how I feel.
Entre les dénonces fantastiques, les magistrates, les inquisiteurs.
Ce n'est pas ma mère qui m'a fait tricoter, c'est un homme qui m'a fait tricoter, mais c'est quoi?
Get out of my Caucasian house! Relax, 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 relax. Get out of my Caucasian house! I've been before. I'm not the son of chick-a-lack, boom, boom, bang, bang. Ooh, girl, I feel presidential, I feel democratic. I've been before.
C'est un extrait qui tranche par sa densité avec la manière dont on entre dans votre spectacle Hymen, hymne, Nina Santès, parce qu'on y entre très silencieusement, chacun à notre rythme, chacune à notre rythme. Il y a des questions qui sont posées au sol, imprimées noir sur blanc sur des feuilles. Et donc, c'est pas du tout ce qu'on vient d'entendre là, qui arrive beaucoup plus tard. Mais on commence par vous faire entendre cet extrait parce que l'une des questions que je me suis posée moi en tant que spectatrice, c'est qui sont ces gens ?
qui est cette personne qui fait cette performance-là? Et qui sont tous les autres gens qui composent les personnes qui font cette création de Nina Santès? Et moi, je me suis dit, je crois que je les ai jamais vus avant, mais nulle part, quoi. Je dis pas eux spécialement, mais aussi ce qu'ils portent.
Alors, c'est intéressant parce que vous les avez peut-être déjà vus dans des spectacles.
Ah, c'est possible.
peut-être pas sous cette forme-là, mais... Alors, la personne qu'on vient d'entendre, c'est Soa de Muse, qui est un ou une performeuse qu'on peut voir dans des cabarets, qui vient plutôt du monde drag queen, cabaret, burlesque et du voguing. Moi, j'ai découvert Soa dans une péniche cabaret à Paris, et voilà, et j'ai été assez frappée par sa puissance performative. Et oui, déjà, toutes ces personnes sont des personnes que j'admirais, et c'est un peu comme ça que j'ai composé cette équipe déjà. C'est les personnes qui m'avaient frappée pour des raisons chaque fois différentes. Voilà, des gens que j'avais vus dans des spectacles ou avec qui j'avais passé du temps et dont la présence et la charge, la puissance m'avaient frappée. Après l'avoir vu dans ce cabaret, je lui ai proposé qu'on se rencontre et on a parlé. Moi, je faisais des recherches à ce moment-là sur la figure de la sorcière pour cette pièce. Et en fait, je pense qu'il y a une histoire vraiment particulière avec cette figure et cette idée. Qui résonne vraiment à un endroit qui est le sien. Et pour les autres performeurs de la pièce, il y a Betty Chomanga, qui est une danseuse et chorégraphe, avec qui j'ai déjà travaillé et qui est interprète pour plusieurs artistes, qui développe son propre travail aussi. Il y a Lise Vermeaux, qui est danseuse, masseuse ayurvédique et DJ. Il y a Nania Jikagara, qui est danseuse et comédienne. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour, et moi. Et peut-être que ce qui nous relie, c'est qu'on est toutes dans des pratiques, dans plusieurs pratiques artistiques, et dans des pratiques assez hybridées, finalement. Toutes reliées au corps, mais on mélange les choses. Voilà. Et donc on a des entrées dans le corps et la danse différentes, et ça m'intéressait de composer une équipe qui n'aurait pas la même réponse à la question que posait ce projet, ou la même entrée dans cette idée de qu'est-ce que ça pourrait être la sorcière, qu'on y réponde vraiment depuis nos endroits et très, très, très personnels, très différents.
Et c'était ça la question ? Qu'est-ce que ça pourrait être la sorcière ? Vous trimballiez avec quoi comme question lorsque vous rencontriez tous ces gens-là?
C'est une des premières questions de la pièce. C'est une question qui est née à l'intérieur d'un solo que j'ai créé auparavant, dont on parlera peut-être plus tard, qui s'appelle Self-Made Man. Et oui, une des premières questions, c'était qu'est-ce que c'est la sorcière? Et je me la suis posée à moi-même. Et du coup, dans la rencontre avec chacune de ces artistes, je leur ai posé aussi... on a partagé cette question et je leur ai proposé d'y répondre à leur manière, et ça a indiqué des chemins de travail, des pistes de recherche et de création ensemble.
Et pour autant, c'est pas la seule question à laquelle on fait face lorsqu'on entre dans le spectacle. On y entre comme dans un lieu, vraiment. Et d'ailleurs, ce sera ça pour nous toutes et nous tous, parce qu'on est, et on y reviendra à même le plateau comme les interprètes. En tout cas, on peut faire ce choix-là. Ces questions, est-ce que vous pouvez en égrener quelques-unes, Nina Santès?
Alors, déjà, c'est drôle parce que c'est pas nécessairement des questions. Il n'y a pas de point d'interrogation.
C'est des phrases. Marrant, moi, c'est uniquement lu comme des questions, c'est drôle.
c'est des phrases qui commencent toutes par comment, et qui peuvent être des questions, effectivement, qu'on pose à chaque spectateur, mais qui peuvent aussi être.
Un mode d'emploi, en fait.
Voilà. Une recette, une formule, un mode d'emploi, et qui étaient des propositions d'entrée individuelle dans la pièce, comme un mantra qui pourrait accompagner une personne au long de son parcours qui sera juste le sien à l'intérieur de l'espace de cette pièce et du temps de cette pièce. Et donc voilà, c'est comment. je vais essayer d'en citer quelques-uns. comment être forte, comment faire une tornade, comment décoloniser la pensée,
apparaître,
comment apparaître, comment disparaître. Ça y est, ça m'échappe.
Ok, bon, c'est déjà pas mal de questions. Et quand vous dites pour que chacun et chacune puisse faire son propre chemin, c'est-à-dire qu'on est invité à prendre l'une de ces phrases, question ou pas, donc on la reçoit comme on veut, et à faire son chemin dans le spectacle.
Voilà. Ça serait comme une porte d'entrée pour chaque personne. On essaye de mettre autant de feuilles que de spectateurs sur le sol. Et c'est un mode d'invitation. C'est une porte d'entrée. Et on peut s'en saisir ou pas. Et ça, c'est un peu le principe de toute la pièce. Un principe de circulation libre, en fait, et de faire le choix de s'emparer des choses ou pas. Et qu'il n'y a pas d'obligation de participer. Mais en tout cas, par rapport à ces phrases, je pense que déjà, les lire, il y a quelque chose qui traverse la pensée, les cerveaux, les corps, et peut-être se dépose, ou alors peut-être juste traverse et repart. Mais en tout cas, voilà, c'est une façon de rentrer à la fois collectivement dans cet espace, parce que c'est une installation de papier au sol, et c'est aussi, pour moi, c'est presque comme un jardin zen. Dans les circulations des spectateurs que ça crée, il y a des... Ça crée des rangées, en fait, les feuilles. Et pour moi, il y a déjà un état hypnotique de la lecture, de choisir sa phrase, de choisir son mantra ou sa question, sa formule.
Et la mise en place est lente. Il y a quelque chose comme ça qui prend vraiment son temps. Et la première chorégraphie à proprement parler, c'est vraiment celle des spectatrices et des spectateurs qui rentrent et qui circulent. Alors, vous le dites comme ça, Nina Santès, j'ai rencontré des gens que j'admirais, des gens dont la présence et la charge ont fait qu'ils ont rejoint le projet. Vous avez voyagé pour ça? Vous êtes déplacé pour ça? C'est quelque chose qui vous a mis en mouvement?
Oui, en fait, la première rencontre que j'ai fait avec eux, c'était plutôt une rencontre dans un périmètre proche de mon lieu de vie. Mais en tout cas, la rencontre à travers le projet a été une rencontre à d'autres échelles géographiques, parce que on est parti en résidence au Liban et aussi au Chili au cours du processus de création de cette pièce. Et en fait, j'ai fait le choix de partir avec deux artistes au Liban et deux autres artistes au Chili. Donc on n'est pas partis tous ensemble. Je suis partie avec Soaïn Agnadji à Beyrouth pendant trois semaines, et je suis partie avec Betty, sa fille, et Liz à Santiago de Chile. Et la façon dont les contextes nous ont imprégnés a été bien sûr très différente pour chaque voyage, et du coup les questions que ça a soulevées ont forcément été différentes et assez complémentaires.
Par exemple, si vous essayez de vous souvenir de l'univers dans lequel vous travaillez à Beyrouth et de celui dans lequel vous avez travaillé au Chili.
Alors à Beyrouth, je me souviens de... Moi, je suis arrivée un petit peu en avance et j'ai accueilli Agnadji et Soa à l'aéroport. Et pour Soa, ça a été le début d'un voyage initiatique, en fait, par rapport à la question de l'identité de genre, par rapport au fait d'être un homme et d'être féminin, aussi par rapport à la question d'être noir. Et voilà, donc on a soulevé toutes ces questions ensemble, parce que juste traverser l'espace public, ça pouvait être quelque chose, pas forcément une épreuve, mais ça soulevait des états. Et donc en fait, on s'est rencontrés à travers ce contexte et aussi à travers tout ce qui venait bouleverser chez nous tous. Et je pense que pour nous tous, pour tous les trois, c'était la première fois qu'on allait au Moyen-Orient aussi. Et donc voilà, il y avait vraiment une expérience de déplacement à l'intérieur de la rencontre.
Et donc ça nous a... Et au Chili.
Alors au Chili, je dirais que l'expérience de déplacement, elle s'est faite vraiment dans la rencontre aussi avec le paysage, parce qu'on a vraiment été se perdre dans le désert avec Lise, qui était arrivée un peu plus tôt avec moi. Et c'est vraiment l'expérience du paysage qui a été comme extatique et qui a appelé aussi à d'autres réponses à cette question de qu'est-ce que c'est la sorcière ? Qu'est-ce que ça pourrait être la sorcière ? Et voilà, et c'est sûr que il y avait une question presque sociétale et d'histoire et de... une question plus sociétale à Beyrouth et une question plus liée à la puissance des paysages et à une sorcière qui serait une sorcière monde un peu, enfin une sorcière liée au paysage, au territoire, à la terre, aux éléments, à quelque chose de la nature.
No, I was born and raised Jewish.
Non, je suis née, j'ai été élevée dans la religion juive et c'est une tradition à laquelle je me sens encore très attachée. Mais à l'âge de 16-17 ans, c'était dans les années 60, je cherchais quelque chose qui corresponde mieux à ma véritable expérience de la spiritualité. En fait, c'était le plus souvent en osmose avec la nature que je ressentais un lien profond avec le sacré, plutôt qu'à la synagogue. Puis j'ai rencontré des gens qui se présentaient comme des sorcières ou sorciers à l'occasion d'un projet de recherche pour un cours d'anthropologie. C'était ma première année d'université. Et ils m'ont parlé de l'ancienne religion, de la déesse.
It just resonated very deeply.
Et ça a vraiment fait écho en moi.
Everything they said, I felt like, yes, that's
j'adhérais complètement à tout ce qu'ils disaient. C'était ce en quoi j'avais toujours cru intuitivement, que la nature est sacrée, la terre est sacrée. Nous tous, les êtres humains, sont autant de manifestations du divin. Donc, depuis que j'ai commencé à étudier, à apprendre avec eux, eh bien, je me vis comme une sorcière.
Nina Santès, on entendait à l'instant la voix de Starhawk, traduite par Eve Dare, dans une série documentaire produite par Céline Chenet et réalisée par Laurent Polleret pour France Culture, consacrée aux sorcières. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette figure-là ?
Oui, ça m'a fait sourire d'entendre sa voix, parce qu'on est allé la rencontrer avec une artiste et réalisatrice de documentaire qui s'appelle Camille Dusselier. En fait, avant de créer Imanimne, j'ai lancé une recherche autour de cette pièce, des premières intuitions, et j'ai découvert le travail de Camille, qui s'intéresse à la sorcière, à cette figure-là depuis des années maintenant. On s'est rencontrés, on a bu 3 cafés, et après on est parti avec nos économies en Californie pour rencontrer des écoféministes. Dont une des pionnières qui est Starhawk. Et quand on est arrivé à San Francisco et qu'on l'a rencontrée, elle nous a proposé en fait de nous héberger et en échange on l'a aidé à repeindre sa maison. Donc on a eu comme ça des discussions super informelles avec elle et avec une grande amie à elle qui est aussi réalisatrice de documentaires. Et il y avait c'était vraiment un moment de sororité assez surréaliste, où on peignait la maison. tout en parlant de l'histoire des sorcières et de comment ces deux femmes d'une autre génération l'avaient abordée et comment et les questions que nous ça nous posait aujourd'hui.
Quelle génération ?
Ben Starhawk a, je crois, autour de 65 ans maintenant. Donc voilà, et j'en ai 34. Et donc on l'a suivi en fait, c'était au moment de l'arrivée de Trump au pouvoir et on l'a suivi dans des manifestations anti-Trump et des rituels syncrétiques contre le fascisme et contre Trump. Et donc moi j'ai été complètement étonnée et déplacée par ces manifestations qui mélangeaient le magique et le politique, en fait, qui était un endroit tout nouveau et pour moi et qui ne ressemblait vraiment pas à ce que c'est que être dans la rue en France, enfin, descendre dans la rue et manifester en France. Et pour moi, l'incursion du magique et de la question de la spiritualité dans l'espace public et spécialement dans les manifestations, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'impossible en France parce que c'est beaucoup trop rationnel. Cet espace-là pour nous, quoi. Donc ça m'a parlé. Et ça m'a parlé aussi de ce que j'avais envie de faire dans un théâtre par rapport à cette pièce.
Ça inspire deux questions pour moi. Peut-être celle de vous imaginer en train de repeindre une maison qui fait directement écho à cette précédente création qui s'appelait Self-Made Man, où la question de bâtir une maison, la peindre, la faire tenir debout, était l'un des prétextes pour dire plein d'autres choses. Nina Santès, tout à l'heure vous avez laissé entendre que finalement la thématique de la sorcière était arrivée à travers ça, à travers Self-Made Man. Comment ?
Alors en fait, pour ce solo... Effectivement, au début, je voulais construire une maison sur scène. Bon, j'ai été très vite limitée par des moyens, voilà, et puis par des compétences limitées pour construire cette maison. Mais par contre, ça m'a permis, ça a été effectivement un prétexte et une façon d'inventer un corps et d'inventer une potentialité. Il a fallu que je sois un homme pour construire cette maison. Et ensuite, il a fallu que je détruise cette figure ou que je la transforme à l'intérieur de ce solo. Et pour moi, la dernière séquence de Self-Made Man, elle contient ce que moi j'ai appelé un espèce d'oracle d'Imanim. C'est comme si la dernière séquence...
Qui est l'autre pièce, la pièce qui suit.
Voilà, Imanim. Oui. Et donc cette dernière séquence, c'est donc une... Je dirais que c'est une femme qui crie parmi beaucoup de voix de femmes. Et ces voix de femmes ont l'air d'être en mouvement, de tourner, de se déplacer et de remplir tout l'espace. Et pour moi, ça invoquait un projet à venir et aussi cette figure de la sorcière. Mais je ne savais pas trop ce que je mettais derrière ce mot à ce moment-là. En tout cas, je pensais sorcière. Et j'ai voulu tirer le fil et creuser qu'est-ce qu'il y avait derrière ce mot pour moi. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le travail de ces activistes à la fin des années 70, début 80, qui reconvoquaient cette figure-là de la sorcière à travers des mouvements de lutte sociale et environnementale, en fait, qui croisaient des questions de la planète, du corps des femmes, et du corps des minorités plus généralement. Et voilà, et j'ai trouvé que ça m'intéressait parce que ça parlait d'un corps collectif et du corps social, en fait, que la sorcière était quelque chose qui était peut-être une énergie contenue dans les corps, quelque chose qu'on pouvait appeler, convoquer tous ensemble, et qui dépassait une figure. Ouais, voilà.
Et pour reprendre la rue comme l'espace politique où la magie a surgi et le fait que ces deux choses-là se rencontrent et vous plaisent, vous interpellent, Nina Santès, ça veut dire que quand on joue Imanim dans un théâtre, c'est considéré que le théâtre, il peut être aussi ça ? Il peut être un espace comme la rue, un espace de corps social, un espace d'expression politique à proprement parler, ou est-ce qu'il est un tout petit peu différent ?
Je pense que c'est un espace qui est très codifié et ce dont j'avais envie, c'était déjà de casser le rapport de enfin la délimitation entre la scène et la salle, et proposer un mouvement de réappropriation collective de cet espace. Et en ça, pour moi, ça résonne avec avec la rue et l'espace public comme comme un espace qui doit rester celui de chacun et qui doit appartenir à personne et tout le monde à la fois. Et voilà, et c'est pour ça que pour moi, c'était important que le public, qu'on cohabite avec le public sur l'espace de la scène et d'inviter les gens à choisir l'endroit depuis lequel ils voulaient faire l'expérience de cette pièce. Et pour moi, le public et les mouvements du public, c'est une partie de l'acte chorégraphique de la pièce, en fait, à proprement parler. Cette pièce n'existe pas sans les présences de cette foule-là et son comportement qui change chaque soir.
Et qui touche aussi le comportement des interprètes, parce que moi je peux avoir des souvenirs de personnes voulant se mettre un tout petit peu en retrait de la pièce et qui peuvent être sollicitées ou visitées par des interprètes ça veut pas dire qu'ils vont empêcher la liberté du public, mais ça veut dire que en tout cas ils vont aller les voir.
Oui, effectivement. Bah déjà il y a un travail sur la vibration et la voix tout au long de la pièce.
Tout le temps, c'est même par là qu'on rentre aussi. Hein.
Oui, ben c'est vraiment le moteur chorégraphique premier de cette pièce. Et donc, il y a une idée de charger les corps, les nôtres, mais aussi ceux des spectateurs, à travers différentes possibilités relationnelles, on va dire. Charger les corps d'une façon très directe, frontale, ou alors de quelque chose de plus doux et indirect. Voilà.
Charger comme de la charge magnétique, quoi.
Voilà, comme si on cherchait à remplir les corps de fréquences ou d'énergie, et que ça en passait par nos voix et par nos gestes, et le fait de activer une forme d'énergie. Et effectivement, on va chercher les gens, mais on les laisse aussi choisir l'endroit depuis lequel ils veulent faire cette expérience. Donc, certaines personnes restent avec nous au plateau, sur la scène, pendant toute la durée du spectacle, circulent, d'autres s'assoient, d'autres font parfois une petite pause sur les gradins qu'on laisse ouverts, puis reviennent. Certaines personnes chantent parfois, certaines personnes dansent, et c'est tout à fait bienvenu. Certaines personnes ont un rapport tactile avec nous, ce qui est assez bouleversant, en fait, pour nous aussi. Je repense à une représentation à Genève. Il y a une séquence qu'on appelle les pleureuses. Et les gens nous prenaient dans leurs bras. Et en fait, il y a eu un espèce de comportement de
mimétisme.
De mimétisme. Et tout le monde s'est mis à nous prendre, à nous faire un câlin. Les gens se succédaient et nous prenaient dans leurs bras comme pour consoler quelque chose. Peut-être que c'était pas quelque chose de nous, peut-être que c'est quelque chose à consoler collectivement. Et donc voilà, en fait, on ne cesse de découvrir ce que cette pièce dit et ce qu'elle vient aussi réveiller avec le comportement aussi des spectateurs.
Avoir un corps de femme pouvait suffire à faire de vous une suspecte. Après leur arrestation, les accusés étaient dénudés, rasés et livrés à un piqueur qui recherchait minutieusement la marque du diable à la surface comme à l'intérieur de leur corps en y enfonçant des aiguilles. N'importe quelle tache, cicatrice ou irrégularité pouvait faire office de preuve, et on comprend que les femmes âgées aient été confondues en masse. Cette marque était restée insensible à la douleur. Or, beaucoup de prisonnières étaient si choquées par ce viol de leur pudeur, par ce viol tout court, qu'elle s'évanouissait à la moitié et ne réagissait donc pas aux piqûres. En Écosse, des piqueurs passaient même dans les villages et les villes en proposant de démasquer les sorcières qui se dissimulaient parmi leurs habitants. En 1649, la ville anglaise de Newcastle-upon-Tyne engagea l'un d'eux en lui promettant 20 shillings par condamné. 30 femmes furent amenées à la mairie et déshabillées.
La plupart, quelle surprise, furent déclarés coupables. C'est Marie-Pascale Dubé qui chante ce chant de gorge habituellement réalisé à deux, mais là elle le fait toute seule. C'était pour un documentaire de Lise-Marie Barré et Annabelle Brouard. Et juste avant, Lou Quevauvillé lisait un extrait de l'introduction du livre de Mona Chollet, Sorcière, publié aux éditions Zone, Nina Santès, parce que ce mot-là revient, en fait. Parce qu'on l'entend beaucoup ces dernières années. En tout cas, nous, on l'a entendu plusieurs fois à cette table-là, porté par des personnes différentes, avec des enjeux différents. Mais c'est bien qu'on ait... C'est très difficile de se dire qu'il cristallise pas quelque chose de l'époque ou des préoccupations, que sais-je. En tout cas, manifestement, il y a des singularités qui se retrouvent sur ce mot-là. Alors, est-ce que vous sauriez dire pourquoi, vous ?
Bon, c'est vrai que moi, je le relie très fort au mouvement écoféministe et à l'arrivée de cette pensée en Europe et en France, qui est assez récente. C'est un mouvement qui est né fin 70, début 80 aux États-Unis, sur la côte ouest, mais qui est arrivé, seulement il y a quelques années en France, enfin en tout cas de manière un peu large, avec l'édition de certains livres, la traduction de certains livres, dont celui de Starhawk. Et après, ce que ça dit, je pense que c'est une figure de, comment le dire en français, empuissancement. La figure d'une femme qui reprend une forme de pouvoir. C'est aussi une figure d'un corps marginalisé. Et aussi une figure insaisissable, et ce que je trouve intéressant, même par rapport au mouvement des Gilets jaunes, par exemple, en ce moment, et à cette idée, en fait, de mouvements qui n'ont pas de nom, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas fixer. Et ouais, je crois que ça parle aussi d'un désir aussi de sortir des assignations et de reprendre une forme de pouvoir par rapport à un ordre établi et un système établi. Et donc ça parle d'un désir dans l'air.
Parce qu'on entendait aussi dans le texte lu par Lou Quevauvillé qu'il y avait des propositions du 19e siècle de démasquer les sorcières qui se cachaient. Et c'est vraiment quelque chose d'assez présent dans votre pièce, Nina Santès, la question de l'apparition, de la disparition, de la dissimulation, pas négative, de la manière de se rendre transparent dans un monde où tout le monde se voit et tout le monde veut se voir. Mais les sorcières, c'est aussi la chasse aux sorcières, c'est aussi des corps qui sont montrés du doigt, qui sont parfois meurtris. De quelle manière est-ce que cette dimension-là de la figure de la sorcière, elle est entrée dans Imen Hymne ? À savoir que les sorcières, c'est aussi la chasse aux sorcières, c'est aussi des corps persécutés, c'est aussi des femmes qu'on voulait démasquer et parfois violenter. Comment est-ce que cette dimension de la sorcière, elle est entrée dans Imen Hymne ? Comment cette thématique-là, elle est entrée ?
En fait, je pense que cette thématique, elle transpire, mais qu'on l'a pas abordée frontalement. On n'a pas abordé... en fait, je pense qu'on ne parle pas directement de la chasse aux sorcières ou de la persécution des corps, mais peut-être qu'on parle plus d'un soin à donner à ces corps-là et à ces espaces-là et à ces pratiques un peu invisibles, enfin ces pratiques de l'invisible et ces pratiques qu'on a condamnées ou qu'on a considérées comme magiques et donc dangereuses, et reconvoquer une idée du magique comme un potentiel, en fait, comme une façon de nous réinventer, comme un possible, comme un devenir même.
Donc voilà, je dirais que c'est plus... peut-être que l'endroit de la chasse, il est contenu dans cette espèce de discours polyphonique que porte Soa. Et pour moi, Soa, il a cannibalisé ses voix.
Ce qu'on entendait en tout début d'entretien, qui sont des voix très vociférantes, très agressives, voilà, très contenantes.
Ouais. Donc il y a vraiment plusieurs niveaux de discours. Il y a des choses... ouais, il y a vraiment plusieurs niveaux de discours. Il y a même des voix qu'on voudrait conjurer et qu'on voudrait tuer. Il y a des propos racistes, il y a des discours aussi de plusieurs points de vue, c'est-à-dire pas forcément le point de vue de l'oppresseur. Il y a aussi l'autre point de vue. Il y a un point de vue de, bon voilà, il y a différents niveaux de discours, et l'idée c'est d'enterrer tout ça. Et d'ailleurs le discours se poursuit par une scène funéraire assez longue. Voilà, et donc pour moi, cette séquence-là de la pièce, c'est pas le corps de Soa qu'on enterre, c'est peut-être ces persécutions-là, c'est peut-être ces discours-là, ces mots qu'on veut tuer, qu'on veut plus entendre, qui sont obsolètes, dont on n'a plus besoin.
Donc c'est peut-être pour ça finalement que la dimension de la chasse aux sorcières, elle n'est pas présente à proprement parler, Nina Santès, dans Hymen Hymne, c'est parce que c'est une pièce du présent. Et que c'est une pièce qui cherche pas forcément à se souvenir de ce qui a été poursuivi ou persécuté, mais qui cherche à savoir ce qui, dans la sorcière, peut être source de transformation.
Oui, effectivement, en tout cas, l'histoire et le passé nous a beaucoup habité pendant le processus. Mais je pense que cette pièce pose la question de la sorcière aujourd'hui et de ce qu'elle nous permet aujourd'hui, en tout cas, de regarder et d'entendre aujourd'hui.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Nina Santès.
I wanna be evil. I wanna spit tags. I wanna be evil. And she the jacks. I wanna be wicked. Tell lies. I wanna be mean, 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 and throw red pies. I wanna wake up in the morning with that dark brown taste. Wanna see some dissipation in my face. I wanna be evil. I wanna be mad, but more than that, I wanna be the hate. I wanna be evil and jump an ace just to see. My partner's face. I wanna be nasty. I wanna be cruel. I wanna be darling. I wanna shoot pool. And in the theater, I want to change my seat just so I can step on everybody's feet. I wanna be evil. I wanna hurt fly. I wanna sing songs. Let the guy cry. Drink booze.
let him even me. Let him even me. Just as mean and evil as I can be, as I can be, hey.
Faut s'imaginer dans une obscurité assez importante, avec des reflets de lumière. Nina Santès, on est au milieu de la pièce Imen Hymne. On entend ce qu'on entend, chacun entend ce qu'il veut. Moi, pas mal d'orages. Mais qu'est-ce qu'on voit?
Alors, on voit ce qu'on a appelé le linceul au sol. Donc, il y a ce très long tissu de 14 mètres qui recouvre le corps de Soa. Et les quatre danseuses, accompagnées des spectateurs, ont déposé des objets sur le linceul. Puis elles ont fini par déposer quatre grands réflecteurs, donc quatre grands cercles en métal sur le linceul aussi. Et puis il y a un chant. Et après ce chant, il y a comme un renversement. Les danseuses se saisissent de ces réflecteurs et commencent à les faire trembler, à les faire vibrer et font grossir le son, en fait, produisent un crescendo qui est effectivement comme la construction d'un paysage sonore, comme un orage, comme vous disiez. Et donc, à ce moment-là, il y a à la fois l'idée de réveiller les morts, mais avant tout l'idée qui suit son cours depuis le début de la pièce, de charger les corps, de faire vibrer les corps, et en fait cette pièce elle est vraiment immersive par le son, c'est-à-dire que on crée des espaces, on ouvre des espaces et on crée des paysages sonores. Elle est immersive, les corps des spectateurs sont à l'intérieur de la pièce, mais la pièce voyage aussi à l'intérieur des corps des spectateurs, inversement. Donc elle est immersive dans les deux sens. Voilà, donc on fait à nouveau vibrer, c'est comme s'il y avait eu une mort et quelque chose qui pouvait renaître de ça, et ça passe par faire vibrer les choses.
Et d'ailleurs, ce que j'appelle orage aussi, avec la le fait que ce soit des grands cercles de métal appelle d'autres imaginaires, par exemple la lune, et puis un peu plus tôt dans la pièce, dans une façon de construire avec beaucoup d'écho, vos voix peuvent être aussi des loups. Donc c'est aussi des nuits très fantasmagoriques que vous appelez comme imaginaire, Nina Santès, des nuits où aussi nos imaginaires travaillent.
Oui. C'est drôle parce que pour ces séquences de nuit, c'était les moments les plus intuitifs pendant le processus de création. Des moments où tout le monde est un peu fatigué, on éteint la lumière, on prend des lampes de poche, plus personne ne parle trop et puis on fait des choses. Ouais, alors là, on perd la maîtrise de ce qu'on est en train de faire et les choses s'agencent comme ça dans un rapport très intuitif dans la nuit. Et j'avais envie de garder cet état... presque, enfin, d'apparition un peu archétypale, enfin qu'on reconnaît mais sans reconnaître, qui ferait partie comme ça d'un imaginaire collectif mais un peu trouble. Et effectivement, ces réflecteurs qui étaient proposés par Célia Gondol, qui a travaillé sur les éléments scénographiques, je trouvais qu'ils étaient à la fois c'est vraiment le cercle primordial, quoi, et en même temps ils sont en métal, donc ils sont vraiment de fabrication de la main humaine. Et aujourd'hui, ils sont aussi abîmés à force de travailler, répéter. Et j'aime ça. Enfin, il y a vraiment un côté un peu. On aurait pu les ramasser dans une décharge. Enfin non, ils sont un peu trop. Ils sont un peu trop.
Ils sont hyper bien faits.
Ouais, ils sont un peu trop parfaits pour ça.
Quel est le rôle des objets d'ailleurs, Nina Santès, dans cette pièce? Parce qu'on parlait presque d'un solo duquel naît cette pièce-là, qui était Self-Made Man, où il y avait déjà une très grande manipulation des matériaux, des objets, une très grande utilisation du son aussi. Hein, c'est vraiment deux choses qui se retrouvent énormément dans ces deux pièces. Mais là, les objets ont encore un rôle différent, je dirais. Lequel?
Pour moi, les objets, ils ont, c'est vraiment un support fictionnel dans Imanim et un support aussi de l'idée du magique. Et, ils nous permettent d'y projeter des fictions et ils nous permettent de réaliser des actions magiques. Donc, par exemple, un tissu est un linceul. Et il permet de faire disparaître des idées. Les réflecteurs sont des machines à tonnerre. Il y a aussi les jeux avec la machinerie du théâtre qui, enfin, hyper basique et vraiment ancienne, qui m'amusait. Voilà, ils nous servent à la fois à construire des paysages visuels et fictionnels et à les déconstruire aussitôt. Donc c'est vraiment des objets qui sont tous assez bruts. Et c'est ce que j'aime dans le travail de Célia, qui s'est aussi occupée de la scénographie de Self-Made Man, c'est que ça pourrait être vraiment des objets qu'on rencontrerait dans la nature ou dans un espace du quotidien. Mais à ce moment-là, avec la charge fictionnelle, ce qu'on projette est autre chose que cet objet. Et du coup, il invente des corps et il invente un contexte.
Et vous dites qu'ils vous permettent, ces objets, de réaliser des actions magiques, mais ça veut dire que vous vivez hymne comme un possible rituel, un réel rituel?
Je pense qu'il y a une dimension rituelle. Moi, j'ai écrit le spectacle, la dramaturgie du spectacle, elle est pensée un peu comme un acte magique. Et elle se réfère beaucoup à certains rituels magico-politiques du Witch Collective, dont on parlait tout à l'heure, dont vous avez lu un extrait du manifeste, et notamment une action que j'ai trouvée très belle.
La leur? Une des leurs,
ouais, qui s'appelle la Women Pentagon Action, qui est une action qu'elles ont réalisée plusieurs fois, et qui était une action anti-nucléaire, anti-militariste, donc une action magico-politique, à l'intérieur de laquelle il y avait plusieurs étapes, en fait, mais vraiment, pour le coup, construites comme un rituel, comme un processus à traverser. Et donc, ces étapes ont passé par formuler, plonger dans, dans la tristesse, la colère, et à partir de la colère, faire défier. Et donc, c'était des actes qui mélangeaient le chant, des marionnettes, de l'action directe, de la prise de parole. Enfin, vraiment, c'était des actes complètement
hybrides.
Et j'ai vraiment construit la pièce sur cette idée de... on doit plonger dans nos propres obscurités pour y trouver une puissance d'agir. Voilà, donc ça suit ce mouvement qui pour moi est un mouvement magique au sens d'un art de la transformation. Donc la pièce pour moi est un acte de métamorphose et de transformation, et c'est ça la magie pour moi.
Ce sur quoi je travaille finalement globalement d'une pièce à l'autre, même si après la forme finale peut être très différente en fonction du sujet, c'est quand même globalement toujours la question de la métamorphose.
We agree.
Merci beaucoup Nina Santès.
Merci.
Hymne se joue du 15 au 18 avril au Théâtre de la Bastille à Paris dans le cadre d'une plus grande manifestation consacrée à la danse. On mettra les références sur le site internet de l'émission. On pourra aussi assister à cette nuit blanche le 8 juin, c'est aux Ateliers de Paris dans le bois de Vincennes. Que dire de plus qu'au son ce soir, c'était Yanis Joudad, à la réalisation Lise-Marie Barré. Un grand merci à Jeanne Aléos, Louque Vauvillier, Marianne Chassor, Romain de Bec-de-Lièvre et Valentin Rémy. Dans un instant, c'est le journal sur France Culture. Tout le monde, je pense, est prêt. À demain.
For without you there is no love. Oh, my heart shines bright for you. Agree to never meet again. We agree a life of misery. There's no love.